Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On poursuit cette matinale largement consacrée au municipal, un scrutin sous le signe du renouveau.
Oui, la France est repeinte en vert et on voit forcément émerger de nouvelles têtes. Alors qui sont ces écolos qui prennent le pouvoir? Nous allons vous les présenter. Et puis dans ce journal, nous allons reparler de cette infirmière virée de chez elle pendant le confinement parce que son propriétaire ne voulait pas être contaminé. Le procès a lieu aujourd'hui. Mais d'abord, direction Marseille, le fief de Jean-Claude Gaudin qui a basculé à gauche hier soir. Victoire de l'écologiste Michel Rubirola à la tête d'une coalition de gauche, le Printemps marseillais. Elle devance de 8 points Martine Vassal, battue dans son propre secteur. Mais elle n'a pas de majorité absolue, Michel Rubirola. Et la candidate LR n'a pas dit son dernier mot. Du coup, Hugo Hamelin, hier soir, la fête était, disons, prudente.
Il est 23h, un millier de sympathisants du Printemps marseillais chantent déjà leur victoire sous les fenêtres de l'hôtel de ville alors que les résultats définitifs ne sont pas encore tombés.
Moi je suis très confiant, il n'y a aucun problème, on va gagner. Le troisième tour sans aucun problème. Rubirola est maire de Marseille.
C'est la victoire de l'espoir.
S'il faut négocier, on le fera, mais c'est gagné.
Les minutes passent, l'écart avec les Républicains se réduit à peau de chagrin. On voit les sourires disparaître, car désormais, c'est sûr, la gauche devra faire alliance pour imposer sa candidate dans le fauteuil de maire.
Non, on n'est pas déçus. On est très très heureux. Mais on est très inquiet de ce qui va se passer cette semaine pour le troisième tour. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que Martine Vassal va faire avec le Front National. On ne sait pas ce que va faire Samia Ghali.
Donc ce soir, c'est pas vraiment gagné.
Pas vraiment, mais c'est déjà des victoires quand même. Donc ça change déjà le paysage.
Une victoire d'estime et surtout une victoire temporaire pour le Printemps marseillais qui pourrait bien se réveiller dans une semaine avec une sacrée gueule de bois.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. À Paris, Anne Hidalgo frôle la majorité absolue. La maire sortante alliée aux écologistes est très loin devant la droite de Rachida Dati. Agnès Buzyn est totalement disqualifiée. La candidate de La République En Marche n'est même pas élue au Conseil de Paris.
Alors le fait marquant de ce second tour, c'est la déferlante écologiste. Plusieurs grandes villes basculent.
Oui, c'est le cas par exemple de Bordeaux. Nicolas Florian, le dauphin d'Alain Juppé, est battu par Pierre Urmic. Un revers aussi pour Gérard Collomb à Lyon. C'est Grégory Doucet qui l'emporte devant son poulain Yann Cuchera. Bon, tout ça évidemment, ce sont de nouvelles têtes. On va apprendre à les connaître. Frédéric Pierruche, vous êtes à Lyon pour RTL. Grégory Doucet, disons que c'est un humanitaire qui n'a que 6 mois de politique au compteur.
Oui, c'est assez inédit. Après 3 ans de militantisme discret chez les Verts, Grégory Doucet est élu pour la première fois pour sa première campagne, maire de la 3e ville française, pas mal pour un novice. Et le comble, c'est qu'il n'est même pas lyonnais. Il a débarqué de Paris en 2009 à 46 ans. Ce père de 3 enfants est d'abord un militant dans l'humanitaire. Il a travaillé à Manille, aux Philippines, dans les bidonvilles. Et ces dernières années, il était responsable des opérations en Afrique de l'Ouest pour l'ONG Handicap International, basée à Lyon. C'est un meneur d'hommes qui s'est gardé son sang-froid. Et par ailleurs diplômé d'une école de commerce, pas superflu, pour gérer une ville. L'homme ne se déplace qu'en vélo, dont il veut multiplier l'usage, développer les transports en commun, limiter la voiture. Il veut créer des forêts urbaines et en urgence débloquer des fonds pour la culture dévastée par la crise du coronavirus.
Nous partons maintenant à Strasbourg. Là-bas, c'est Jeanne Barseguian qui l'a emporté. Une discrète, Yannick Collant.
Ah oui, c'est même la discrétion incarnée. Jeanne Barseguian, 39 ans, est une juriste spécialisée en droit de l'environnement. Elle a grandi près de Paris, puis elle part faire ses études en Allemagne et c'est là qu'elle prend conscience de l'urgence écologique. C'est là aussi qu'elle devient végétarienne. Elle arrive à Strasbourg en 2002 pour ses études. Elle n'en repartira pas. Bénévole dans plusieurs associations, notamment pour la défense du grand hamster d'Alsace, une espèce protégée. Cette passionnée de chant choral ne s'engage en politique qu'en 2014. Elle devient conseillère municipale, mais elle se met très rarement en avant. D'où la surprise totale des Strasbourgeois au début de cette campagne lorsqu'ils ont découvert sur les affiches le visage de cette petite brune aux yeux bleus qui veut faire un grand plan de végétalisation des rues de Strasbourg. Alors hier, elle a fait une petite entorse à sa discrétion naturelle pour fêter sa victoire. Elle a présenté sur scène son amoureux, un Allemand, un couple franco-allemand à la tête de Strasbourg, tout un symbole.
Merci Yannick Collant. Et puis à Poitiers, victoire de Léonore Monconduit. C'est bien simple, Jean-Mathieu Pernin, c'est l'une des plus jeunes maires d'une grande ville.
Et oui, un poste de maire comme cadeau d'anniversaire, hein, puisque Léonore Monconduit vient à peine de fêter ses 30 ans. Voilà, qu'elle devient la première femme à conquérir l'hôtel de ville de Poitiers. Alors cette victoire, c'est celle d'une engagée pressée. Elle a été scout éclaireur de France, conseil à la vie lycéenne, militante à la fac, service civique. Alors c'est un parcours assez classique, mais pas vraiment politique, plus associatif. Elle est diplômée de Sciences Po et elle s'engage aux côtés d'Europe Écologie Les Verts en 2015, au moment des élections régionales. Élue, elle co-préside le groupe Écologie en Nouvelle-Aquitaine. À l'automne dernier, elle prend la tête de Poitiers Collectif, coalition des Verts, des communistes de génération. Léonore Monconduit est un des nouveaux visages de l'écologie. Elle s'intéresse aussi bien à l'environnement qu'au social, issue de ce qu'on appelle la génération climat. Et encore candidate, elle déclarait dans la presse régionale « Je ne suis pas attachée à tout ce qui est honorifique ». Eh bien, la nouvelle maire de Poitiers va pourtant devoir s'y habituer.
Merci Jean-Mathieu Pernin. Lille a bien failli passer au vert aussi. Martine Aubry a sauvé son fauteuil à 227 voix seulement face à l'écologiste Stéphane Bally. Le PS qui s'empare par ailleurs de Nancy avec Mathieu Klein et qui conserve Nantes, Rennes et Le Mans, mais qui a perdu Carmaux, la ville de Jaurès, qui était socialiste depuis 128 ans. C'est jour de gloire donc pour les Verts, mais la droite revendique aussi la victoire. Écoutez ce que disait le chef de file des députés LR, Christian Jacob, hier soir.
On renoue avec la victoire. Après l'échec des présidentielles, des législatives, des européennes, ce soir, nous allons avoir les Républicains et nos alliés. Plus de 50% des villes qui sont détenues par les Républicains sur les villes de plus de 9000 habitants. Ce qui laisse augurer favorablement à la fois des sénatoriales et puis des départementales et des régionales. C'est une très belle victoire.
Une très belle victoire, dit Christian Jacob. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Une belle victoire, vraiment?
Disons que le bilan est plus contrasté. La droite avait bénéficié d'une vague bleue en 2014 et elle conforte son ancrage local. LR peut se féliciter de conserver Toulouse, où Jean-Luc Moudin qui était en difficulté, Nice avec Christian Estrosi, Saint-Étienne avec Gaël Perdriau, Mulhouse, Auxerre ou Limoges restent aussi dans son giron, et LR conquiert Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, arrachée au Parti communiste, ou encore Metz. Mais il y a aussi de sévères convenus, au premier rang desquels Bordeaux, pensez donc, la ville de Jacques Chaban-Delmas et d'Alain Juppé tombée dans l'escarcelle des écologistes. Marseille, peut-être, on le saura d'ici ce week-end puisque l'élection du maire se joue secteur par secteur. Perpignan, évidemment, conquise par le RN loué à Lyon. LR perd aussi Colombes, Morlaix ou Chambéry. Mais ses dirigeants préfèrent se voir vainqueurs car au final, les villes gagnées ou conservées lui permettront d'assurer sa majorité au Sénat, ce centre névralgique de pouvoir et espère LR de reconquête au niveau national.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
Et pour la droite à 8h35, c'est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui sera notre invité.
Le vrai vainqueur de ces élections municipales, au fond, c'est l'abstention. Autour de 60%, c'est historique. La crise sanitaire n'y est sans doute pas pour rien. Le malaise, l'a dit, est peut-être un peu plus profond.
Abstention, vague verte, majorité inexistante. La balle est maintenant dans le camp d'Emmanuel Macron et on en parle dans un tout petit instant sur RTL.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal d'Isabelle Choc. Après 3 mois d'attente, c'est enfin le jour d'après. Après les municipales, Emmanuel Macron doit repenser son quinquennat.
Le président doit procéder à un remaniement d'ici la mi-juillet. Va-t-il garder Édouard Philippe? C'est en tout cas le souhait de 55% des Français, selon un sondage Harris Interactive pour RTL, TF1 et LCI. Le Premier ministre s'est imposé largement hier soir au Havre avec près de 59% des voix. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Alors sa victoire le rend incontournable, Édouard Philippe, mais en même temps, le président va devoir tenir compte de la poussée des Verts.
Oui, l'Élysée et Matignon ont beau dire qu'Emmanuel Macron peut se séparer de son Premier ministre comme il l'entend, c'est beaucoup moins vrai depuis hier soir. Cette victoire large renforce Édouard Philippe, c'est indéniable, sa cote de popularité est élevée, sa gestion de la crise sanitaire a été saluée, une majorité de Français, vous l'avez dit, souhaite qu'il reste à Matignon. Enfin, Emmanuel Macron a besoin de lui pour conserver le soutien de l'électorat de droite qui s'est tourné vers lui en 2017. Mais vous le disiez, le triomphe des écolos change la donne, même si Emmanuel Macron ne veut pas nationaliser ce scrutin, on voit mal aujourd'hui comment ne pas composer un gouvernement plus écolo. Et le président peut tout à fait décider qu'un virage vert ne sera pas crédible avec un Premier ministre de droite, adepte de la rigueur budgétaire et plutôt hostile à la Convention citoyenne sur le climat. D'autant qu'Édouard Philippe a déjà tracé ses propres lignes rouges. Le président sait ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, dit-il. Peut-il rester pour diriger un gouvernement plus à gauche, plus social, plus écolo et avec plus de démocratie citoyenne? Sur le papier, c'est loin d'être évident.
Un décryptage politique signé Vincent Derosier. Emmanuel Macron qui a rendez-vous ce matin avec les représentants de la Convention citoyenne pour le climat. Dès hier soir, il leur a promis des réponses fortes. C'est bien ce qu'attend Lambert Allard. C'est l'un des 6 délégués qui sera reçu tout à l'heure.
Ça va être un moment important pour moi, ça va être un moment important pour les 150. Je pense pour les Français et pour le président. On a proposé des mesures qui sont applicables, socialement justes. Et maintenant, on attend bien évidemment qu'il respecte son engagement et qu'il montre qu'on a bien fait de lui faire confiance et qu'on a bien fait de travailler dur pendant 9 mois. J'aurais pas envie de retenir une mesure, j'aurais envie de retenir évidemment les 149 mesures. C'est important de débattre sur cette question de limitation de vitesse. Le débat, il est sain, on l'a eu à 150. Il y a aussi des mesures qui pourraient être attendues et qui sont pas du tout punitives, qui sont incitatives. On parle de la réduction de la TVA pour les circuits courts, de la réduction de la TVA pour le train, la rénovation des bâtiments, c'est une grande mesure forte. On avait aussi le bilan carbone des entreprises, la fin des emballages. On a vraiment balayé énormément de sujets. Je pense pas qu'on ait besoin toujours du président. Si le citoyen, il est capable de montrer qu'il souhaite faire des choix de consommation plus écologiques, on pense que c'est grâce à ça qu'un changement de système est possible.
Lambert, l'un des 6 délégués reçus par Emmanuel Macron tout à l'heure au micro RTL de Frank Hanson. Après cette rencontre, le président s'envolera pour Berlin où il doit rencontrer Angela Merkel. Le couple franco-allemand doit défendre son plan de relance européenne à 500 milliards d'euros, un plan qui doit encore être validé mi-juillet.
8h11 et l'actualité de ce lundi, c'est aussi le procès d'un propriétaire très indélicat.
En plein confinement, cet habitant de Montpellier a fait des pieds et des mains pour que sa locataire quitte le logement qu'elle occupait pour une seule raison. Mélina est infirmière et son propriétaire qui habite juste au-dessus ne voulait pas être contaminé, Patrick Hisson.
Oui, pour chasser l'infirmière et sa famille, le couple de propriétaires n'a pas hésité à leur rendre la vie impossible en leur coupant d'abord la télévision, puis l'eau chaude et le chauffage. Il eut aussi des mots terribles. On s'en fout que vous attrapiez le virus et que vous mouriez du moment que ce n'est pas chez nous. Ou encore ce moment incroyable de l'état des lieux juste avant le départ. Rémi Lévy est l'avocat de l'infirmière.
Parce que les bailleurs voulaient facturer la décontamination, c'est ce qu'ils ont dit, de l'appartement. Mais tout le monde a été marqué par cet épisode, cette espèce de hargne, de méchanceté. Un moment voilà, difficile à vivre.
Trois mois après, Mélina, l'infirmière et surtout sa famille reste très marqué psychologiquement par ce départ imposé en pleine crise sanitaire. Ils n'ont pas de désir de vengeance, mais seulement la volonté que leur souffrance et la vérité soient reconnues, ajoute leur avocat.
Patrick Hisson à Montpellier pour RTL. Le jugement dans le procès Fillon doit être rendu aujourd'hui théoriquement parce que l'ancienne patronne du parquet financier a fait savoir qu'elle avait subi des pressions pendant l'enquête et la défense a demandé la réouverture du procès. Et puis si vous prenez les transports en commun à Paris, ça ne vous a pas échappé, il n'y a pas toujours du réseau. On a du mal parfois à surfer sur le net. Eh bien, c'est terminé. La 4G est désormais opérationnelle sur 100% du réseau RATP, Arnaud Touche.
Oui, plus de 300 km de câbles ont été tirés pour couvrir les besoins des 304 stations de métro parisien comme ici.
Gare de Lyon est une des premières couvertes. Le trafic a été multiplié par 6.
Michel Cordival, le directeur des télécoms à la RATP, parle ici du trafic de données 4G et il compte aussi sur cette technologie pour mieux informer les usagers.
Juste les voyageurs pendant une demi-heure dans le métro arrivent à générer autant de trafic 4G qu'une ville entière, Rennes ou Lille, pendant toute une journée.
4 opérateurs téléphoniques se sont chargés de la réalisation de ce réseau souterrain.
Alors on a des antennes spécifiques qui permettent effectivement de propager le signal le long du tunnel et comme ça on assure la continuité entre 2 stations de métro.
Le travail s'est fait essentiellement de nuit, détaille Philippe Laplane, directeur réseau chez Orange.
Toutes ces dernières années, il a fallu 250 000 heures de travail, 2000 interventions pour installer l'ensemble de ces antennes et de ces installations.
Une installation évolutive puisqu'il sera relativement facile désormais d'équiper le métro de la 5G dans les années qui viennent.
La 5G, reportage RTL signé Arnaud Touche.
Ça vous fait rêver, hein ?
Carrément.